Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Ce matin, on va partager ensemble la parole de Dieu à propos de la sagesse. Je vous assure que s'il y a une chose dont nous avons besoin, c'est de la sagesse qui vient du ciel. Amen. Parce que tout le temps, nous n'avons pas une connaissance et une compréhension complète de ce qui nous entoure. Nous voyons avec nos yeux, nous comprenons avec notre intelligence, et bien sûr nous sommes intelligents, donc nous pouvons comprendre certaines choses. Ce que nous entendons avec nos oreilles, mais nous ne voyons pas tout avec nos yeux, n'est-ce pas? Rien que dans le naturel, tu ne vois pas tout. Dans le naturel, tu n'entends pas tout. Il y a des choses que tu entends, il y a des choses qui sont dites que tu n'entends pas. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas toutes choses, n'est-ce pas? Il y a des choses que nous ressentons, et parfois on ressent bien, et parfois on ressent mal, selon notre sensibilité personnelle. Et nous avons tous une sensibilité qui est différente, même si pour certaines choses nous avons la même sensibilité. Par exemple, si je vous frappe, ça va vous faire mal, et si vous me frappez, ça va me faire mal. Bien sûr, dans certains domaines, à certains niveaux, nous avons la même sensibilité, mais aussi pour d'autres choses, nous sommes différents. Donc, il y a des choses que nous voyons, des choses que nous entendons, des choses que nous ressentons, des choses que nous connaissons, et nous ne connaissons pas tout. Nous sommes très très loin de tout connaître. Nous sommes limités dans la connaissance parce que déjà nous sommes limités dans un corps et puis parce que nous sommes des hommes. Nous connaissons partiellement ce qui est du présent et nous ne connaissons rien de ce qui concerne l'avenir. Amen. Et pour pouvoir avancer dans notre vie sans faire d'erreur, nous avons besoin de la sagesse. Et j'aimerais qu'on lise... On va lire l'histoire de Salomon, comment est-ce qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Mais d'abord, j'aimerais qu'on lise dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et ce verset dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, moi je vais même aller un petit peu plus loin. C'est pas si quelqu'un d'entre vous, c'est nous tous. Nous tous, nous manquons de sagesse. Pourquoi? Parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Si on manquait pas de sagesse, on ne ferait pas d'erreur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut dire il a toute la sagesse, qu'il a suffisamment de sagesse, c'est quelqu'un qui ne fera jamais d'erreur. Mais vous en avez fait, vous en faites et vous en ferez encore. Et c'est pareil pour moi. J'ai fait des erreurs, j'en fais et j'en ferai encore. Et face à ces choses, ce n'est pas en pleurnichant ou en nous lamentant ou en regrettant, parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé, tu ne pourras jamais le changer. On ne peut pas changer le passé, mais on peut construire l'avenir. Amen. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager. Tu manques de sagesse, je manque de sagesse. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber et puis on va continuer à vivre dans nos erreurs et en subir les conséquences. Ça, c'est les gens qui ne sont pas sauvés. Les gens du monde, ils n'ont pas cette solution dans le Seigneur. Nous, nous l'avons, Jésus et notre sagesse. C'est marqué qu'il la demande à Dieu. Ce que j'aime bien, c'est qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement sans faire de reproche. Dieu donne simplement et il ne te fait pas de reproche. Tu manques de sagesse dans tes paroles, tu manques de sagesse dans tes réactions. Tu prends des décisions qui sont pas sages. Et ça arrive à tout le monde. Manquer de sagesse dans ses paroles. dire ce qu'il ne faut pas dire. Il y a une chose qui arrive à beaucoup de monde. Quand tu as des soucis, quand quelqu'un t'a fait du mal, ou quand quelque chose te trouble, tu vas trouver quelqu'un pour lui raconter. Et ça, c'est la plus grande erreur que beaucoup de gens font. Tu vas trouver quelqu'un, tu lui racontes, voilà, on m'a dit ça, on m'a fait ça, j'ai tel problème. Au moment où tu le dis, tu quittes cette personne, tu peux être sûr qu'elle va aller le raconter à quelqu'un d'autre. Elle va aller le raconter. C'est pas par méchanceté, c'est juste parce que les gens ne savent pas se taire, n'est-ce pas? Si vous connaissez des gens qui savent se taire, moi je n'en connais aucun. Tout le monde parle d'une manière ou d'une autre. Alors toi, tu as dit des choses qui étaient là dans ton cœur parce que ça te faisait mal. Ce sont des choses qui sont secrètes, non pas parce que c'est honteux, mais parce que c'est personnel, c'est intime. Et tu vas le dire à quelqu'un, quelqu'un va aller le répéter, et d'autres vont le répéter. Et après quelques temps, il y a la moitié de la ville qui est au courant, et après tu vas trouver ce que tu as dit dans la bouche de quelqu'un d'autre, et ça sera redit et mal dit, n'est-ce pas? Et je sais que beaucoup ont eu à souffrir de ce genre de choses. Le manque de sagesse, c'est de parler des choses de ta vie, de tes problèmes, des choses qui te sont extrêmement personnelles, extrêmement intimes à quelqu'un. Tu fais ça, tu peux être sûr que ça sera répété. La sagesse, c'est de confier ces choses-là au Seigneur. Parce que lui, il sait garder les secrets. Amen. Et en plus, les gens n'ont jamais la solution. Personne n'a de solution à tes problèmes. Si tu crois encore aujourd'hui que les gens ont des solutions à tes problèmes, tu vas te rendre compte tôt ou tard que tu te trompes. Mais le Seigneur, non seulement il a la solution, mais il est la solution. Il est la solution à toute chose. Donc le manque de sagesse, c'est de parler pour dire des choses qu'il ne faut pas dire. Mais la sagesse, c'est de parler au Seigneur, de lui remettre toutes choses, de grandir avec lui, de le connaître et de le comprendre. Et quand tu manques de sagesse dans tes paroles, le Seigneur, il est là pour t'aider. Que ce soit le fait de confier des choses qui sont dans ton cœur, ou par exemple, quelqu'un te fait du mal ou te dit quelque chose et tu vas lui répondre n'importe comment. Oh, tu peux. On est libre de répondre à qui on veut, ce que l'on veut. Mais une fois que tu as parlé, ce que tu as dit, ce qui sort de nos bouches, c'est toujours une semence. Fais attention aux fruits que tu vas manger après. Parce que si tu parles mal, si tu parles avec arrogance, avec méchanceté, avec colère aux autres, peut-être qu'ils ne vont rien te répondre sur le moment, mais méfie-toi de ce que tu vas récolter, parce qu'après ils vont aller mal parler de toi, ou alors quand ils auront l'occasion, ils te feront du mal. Bien sûr, ce sont des choses qu'on ne devrait pas trouver dans l'Église. Amen. Et ça, je tiens à le dire. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres avec un amour sincère, vous pardonnant réciproquement comme Christ, comme le Père vous a pardonné en Jésus-Christ. Supportez-vous, soutenez-vous les uns les autres, pardonnez les faiblesses, les erreurs des uns des autres. L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait trouver dans l'Église. Donc on parle de manque de sagesse. Peut-être que tu es sur le point d'avoir un travail, que tu espères vraiment avoir ça, et tu commences à en parler à gauche, à droite, et tu commences à te vanter, à frimer, dire voilà, moi je vais avoir ce travail, je vais m'acheter telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Je parlais avec mon fils hier, on parlait de quelqu'un qu'on connaît qui est parti en Europe. Et cette personne disait, ah, moi je vais aller en Europe et un jour je reviendrai au volant d'une Mercedes. Peut-être que ça arrivera, peut-être qu'il reviendra comme le fils prodigue. Vous connaissez le fils prodigue? Vous pouvez lire Luc chapitre 15, l'histoire du fils qui est parti faire fortune dans un pays étranger et qui s'est retrouvé pris dans la famine en train de nourrir des cochons, des porcs. Et lui-même, il mangeait la nourriture des cochons. Il est revenu complètement ruiné, appauvri, humilié. Et son père, bien sûr, l'a accueilli et l'a restauré. Donc, faites attention quand vous parlez, de ne pas dire des choses qui risquent après même de vous ridiculiser, n'est-ce pas ? Ceci dit, Dieu nous aime, il veut nous bénir, il veut que nous prospérions, il veut nous donner le meilleur travail qu'il soit pour que nous ayons de quoi vivre, être dans l'abondance et aussi avoir de quoi donner à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Mais tout le monde, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, a manqué de sagesse dans ses paroles et l'a regretté par la suite. Amen. Manquer de sagesse aussi dans ses réactions, comme je le disais tout à l'heure. Si quelqu'un te fait un coup, ne lui réponds pas par un coup. Parce que vous allez vous envoyer des coups et c'est toi qui risques de tout perdre après. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu as quelque chose contre quelqu'un et que tu es en train de venir devant le Seigneur pour apporter ton offrande, avant d'offrir ton offrande, réconcilie-toi avec ton frère de peur qu'il ne se retourne contre toi et ne te déchire. Faites attention dans vos réactions. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir peur les uns des autres, parce que nous ne sommes pas non plus supposés marcher dans la crainte. Mais une mauvaise réaction que tu as eue là, tu ne sais pas ce que ça va provoquer un peu plus loin dans ta vie, ce que ça va amener. Et là aussi, on a besoin de sagesse dans ses réactions. Jésus est l'exemple typique, l'exemple même de la sagesse. Lorsqu'il s'adressait aux pharisiens, on parle de réaction, de la façon de réagir. Il parle avec les pharisiens. On va regarder dans les évangiles. Dans Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet à l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit pour prier de Dieu. » Qu'est-ce que nous enseigne ce passage ? Jésus était en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il était en train de faire la volonté de Dieu, se trouver dans la synagogue. Il y avait cet homme qui avait la main sèche et la volonté de Dieu, c'était que cet homme soit guéri. Mais Jésus n'a pas manqué de sagesse. Vous savez, plus nous allons être appelés à servir Dieu, plus nous serons confrontés à de telles situations. Je vous assure. Ne pensez pas que les temps ont changé, que les gens ont changé. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Ne pensez pas parce que vous allez amener beaucoup d'âmes au Seigneur ou que le Seigneur va vous utiliser dans la guérison, qu'on va vous féliciter, qu'on va vous applaudir. D'ailleurs, vous féliciter, vous applaudir, ça serait une erreur. Celui qui on doit féliciter, c'est le Seigneur. Seigneur, je te félicite, tu as réussi à utiliser ce frère ou cette sœur. Amen. Et ne pensez pas qu'on vous applaudira non plus. Et vous trouverez des gens qui seront furieux, qui seront jaloux, qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas d'accord. Si Jésus a vécu cela, nous allons le vivre pareillement. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'ils ont appelé le maître Satan, Belzébul, comment est-ce que vous pensez qu'on va vous appeler, qu'on va nous appeler ? Et ça ne sera pas nécessairement venant des inconvertis, ça viendra des inconvertis aussi, mais ça peut venir aussi parmi les chrétiens. Et ça, ça vient par un manque de compréhension. Si tout le monde comprenait vraiment quand Dieu est en train de faire quelque chose, que ça vient de Dieu, si tout le monde respectait l'onction que Dieu a mise sur ses serviteurs, si tout le monde avait un cœur de se dire bah, « si le Seigneur l'utilise, il peut m'utiliser aussi », on ne trouverait jamais ce genre de problème. Mais tout le monde n'a pas le même cœur. Amen. Les incompréhensions, elles peuvent être là. Nous vivons tous, et vraiment, le Seigneur m'a parlé là-dessus hier soir. Nous vivons tous des incompréhensions, parce que nous sommes des hommes. Mais la façon dont nous réagissons face à ces compréhensions fera que soit nous allons en sortir, nous allons progresser, que le Seigneur va nous fortifier, qu'il va continuer de nous utiliser, qu'il va régler les problèmes, et ça c'est pour sa gloire. Soit si nous n'avons pas ce cœur-là, on va s'enfoncer dans les incompréhensions, dans un esprit critique, dans un esprit de jugement, dans de la jalousie, dans de la méchanceté, dans de l'amertume, dans de la colère. Et vous savez ce que ça produit ? La destruction dans la vie des gens. Et ça, c'est ce qui se passait avec Jésus et ses pharisiens. Nous allons tous nous trouver face à ce genre de situation, à ce genre de personnes, tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a réagi dans la sagesse. Il aurait pu réagir dans la colère. Il aurait pu réagir dans le mépris. Il aurait pu réagir dans l'insulte. Mais vous vous prenez pour qui exactement pour oser vous permettre d'émettre une opinion ? Vous êtes qui d'abord ? Est-ce que vous savez qui je suis ? Moi, je suis Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et vous vous permettez de parler du n'importe quoi, alors que vous n'êtes même pas capable vous-même de guérir cet homme, alors que moi je suis capable de le faire. Il aurait pu faire ça, Jésus. Il aurait pu faire ça sans aucun problème. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que dans son cœur, il voulait aider ces gens à changer. C'est pour ça que Jésus a toujours réagi dans la sagesse d'une part, afin de ne pas provoquer des choses qui pouvaient... Bon, l'accuser, si, parce qu'il a toujours été accusé, mais qui pouvaient provoquer des catastrophes, d'une part. Mais il a toujours réagi dans la sagesse pour aider les gens qui étaient dans l'erreur et dans l'incompréhension. Et qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a aidé ces gens, il a aidé ces scribes et ces pharisiens qui ne comprenaient rien. Ils se croyaient intelligents, mais en réalité, ils ne comprenaient rien. Et il va guérir cet homme de telle manière qu'il puisse être changé et se repentir. Au lieu de ça, ils ont préféré être remplis de fureur et d'essayer de trouver le moyen de tuer Jésus, de ce qu'ils allaient lui faire pour lui faire du mal. Et face aux situations, face aux paroles, face aux gens, nous avons besoin de sagesse dans nos réactions. Amen. Dans nos réactions. Si tu manques de sagesse, ça va être catastrophique pour ta vie. Tu vas te faire détruire. Tu vas te faire démolir. Tu donnes au diable des armes contre toi. On aime dire souvent, oui, toute arme forgée contre nous sera absolument sans effet. Ça, c'est dans Ésaïe. On est d'accord avec ça. Le diable lui-même, il se forge des armes contre nous et nous pouvons et nous avons la parole de Dieu à déclarer face à ces choses-là. Et c'est efficace et ça marche. Mais quand on parle mal, quand on réagit mal, nous sommes en train de donner au diable des armes, des terrains pour qu'il puisse nous détruire. Et après, comment tu peux dire « non, j'ai jamais dit ça » ou « non, je n'ai pas réagi comme ça » alors que si. Donc, face à ces choses, ce n'est pas le temps de se lamenter, de se décourager ou de dire « non, je ne l'ai pas fait » ou « non, je ne l'ai pas dit ». Ce que tu as dit, tu l'as dit. Ce que tu as fait, tu l'as fait. C'est le temps de demander à Dieu de la sagesse pour pas que ça recommence. Amen. Que nous puissions tous tirer un enseignement des erreurs de notre passé Et maintenant, on parle du manque de sagesse dans nos actions. Moi, je connais beaucoup de gens qui prennent des décisions comme ça à la légère. Je vais aller ici. Je parlais là de ce jeune dont on parlait. Il est parti en Europe. Je ne vais pas vous dire son nom. Il est parti en Europe récemment, il y a quelques mois de ça. Il est parti en Europe parce qu'il avait l'occasion, parce que, bon, il vivait dans une famille qui n'était pas aisée. Même s'il avait de quoi manger, même s'il étudiait quand même, bon, c'était pas mal, mais c'était pas du tout ce qu'il rêvait. Donc, je ne sais pas comment il s'y est pris pour trouver les papiers, mais il a réussi à partir en Europe. Et moi, je lui ai dit, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec lui récemment, je lui ai dit, tu te plais au moins? Et vous savez quelle a été sa réponse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas osé dire non. Alors moi, je lui ai dit, bon, attends d'avoir passé l'hiver, après tu verras. Parce que s'il ne sait pas maintenant, à la fin de l'hiver, il saura vraiment. Manque de sagesse dans ses décisions, dans ses actions. Et pour ceux qui sont partis comme ça, excusez-moi de parler de ça, si vous voulez partir en Europe, ne vous gênez pas. En tout cas, moi je reste. Je connais très bien l'Europe, j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc pour ceux qui partent comme ça, c'est facile de partir. Par contre, pour revenir, si tu te plais pas, comment tu fais? Tu déchires encore tes papiers? Ou tu reviens en marchant, tu traverses le Sahara, tu traverses la mer Méditerranée aussi à la nage? Parce qu'il n'y a plus de moyen de revenir une fois que tu es parti. Surtout si tu as menti, que tu t'es déclaré réfugié, tu ne peux plus revenir. Manque de sagesse parce qu'on voit l'opportunité. Ne soyons pas comme des enfants. Tu vois quelque chose qui est brillant. Ah, c'est brillant. La vie est facile. Il y a de l'argent. Il y a des études. Oui, c'est vrai. La vie n'est facile. Ça, par contre, je ne dirais pas qu'elle est facile. Il y a de l'argent. Je suis d'accord avec ça. Il y a des études, je suis d'accord avec ça. Mais quand on doit mettre parfois les choses, vous savez, il faut mettre les choses dans une balance. Tu mets sur un plateau le pour et tu mets sur l'autre plateau le contre. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de se convaincre que le pour est plus lourd que le contre. Ils vont toujours trouver des raisons pour que, si, c'est vrai, ça c'est le meilleur, je le sais. J'ai un de mes enfants qui est parti récemment étudier en France. Je lui dis, mais ne va pas là-bas. Et il voulait toujours me donner des prétextes, des excuses, des raisons. Oui, si j'y vais, voilà ce que je vais trouver, voilà ce que je vais gagner. Alors que ici, voilà les problèmes que j'ai. Alors, les problèmes, ils étaient très lourds. Ça fait que le côté contre n'était pas plus lourd que le côté pour. On peut, par nos façons de penser, et quand on veut se convaincre, on peut faire pencher la balance du côté qui nous intéresse, et on y va. Ok, vas-y. Mais je te promets que si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu t'a dit spécifiquement, tu vas le regretter. Peut-être pas demain, mais après-demain. Et il y a des choses parfois qu'on regrette, et on ne peut plus les changer. Manquer de sagesse dans ses décisions, manquer de sagesse dans ce que l'on fait, s'associer parfois dans des projets, dans des boulots, dans des choses, sans demander au Seigneur, juste parce que cette personne, elle a une tête sympathique, elle a un gentil sourire, alors j'y vais. Manque de sagesse, tu vas le regretter après, peut-être, peut-être pas, parce que des fois ce n'est pas le cas. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Et on va continuer à lire ce passage dans Jacques. Qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et je vais continuer verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que ce que tu demandes au Seigneur, tu le demandes avec foi, c'est-à-dire en t'attendant à le recevoir. Amen. J'aimerais qu'on conclue en regardant l'histoire de Salomon. Parce que Salomon, lorsqu'il s'est retrouvé sur le trône de David, son père, c'était un jeune garçon. David, il lui a fallu toute sa vie pour arriver à la fin de son règne, là où il était. Et Salomon a dû rentrer, si vous préférez, si je peux donner cette image, dans les chaussures de son père. Et ce n'était pas une petite chose. Il y a un deuxième homme qui a vécu pareil, c'est Josué. Prendre la suite de Moïse, ce n'était pas une petite affaire et ça lui faisait très peur. Vous savez, quand on démarre quelque chose, c'est nous-mêmes qui commençons quelque chose, bon, ça peut être difficile, mais on construit au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on construit, on apprend. Amen. Moi, je remercie le Seigneur, et de tout mon cœur, et je suis vraiment sincère. Je remercie le Seigneur de ce qu'il nous a amené ici au Burundi, et que quand il nous a amenés ici, il n'y avait rien. Bon, il y avait d'autres choses ailleurs. Quand je dis il n'y avait rien, c'est pour nous personnellement. On ne s'est pas retrouvé à devoir diriger un institut biblique avec plusieurs centaines d'étudiants du jour au lendemain. Et je remercie le Seigneur pour ça. On ne s'est pas retrouvé à être les pasteurs d'une église de pratiquement 1000 membres du jour au lendemain. Non, non, non. On a commencé l'église, on était 85 et c'était déjà énorme. C'était déjà beaucoup pour nous. On a commencé l'Institut biblique, il y avait une cinquantaine d'étudiants. Et c'était déjà beaucoup. Et je remercie qu'on a appris au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'on a appris, le travail a grandi, le travail s'est développé, et c'est arrivé au point où aujourd'hui, bon, je dis merci Seigneur. On sait comment faire, non pas parce qu'on le sait par nous-mêmes, parce que le Seigneur nous a instruits, nous a enseignés. On a appris aussi pas mal de choses au travers de nos erreurs. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain qu'on soit là, ici à l'Odéon Palace, devant vous tous. Et je remercie le Seigneur, parce que moi j'aurais paniqué, je serais partie en courant en disant « moi je ne veux pas de ça, je ne suis pas capable, je ne peux pas ». Celui qui dit « Oh, moi, je suis capable », il est encore moins capable. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, Salomon, il le savait très bien. Josué aussi le savait très bien. Josué, juste avant qu'il se trouve à devoir prendre la suite de Moïse, il paniquait tellement que le Seigneur lui a parlé. Et je voudrais lire ce passage-là. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans le pays des Éthiens, jusqu'à la grand mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et après, le Seigneur lui dit que c'est en pratiquant la parole, en agissant sur la parole, en méditant la parole, en parlant la parole, qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprend. Mais il a fallu que le Seigneur lui parle. Et pour Salomon, c'était exactement la même chose dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Salomon aimait le Seigneur. Il savait qu'il devait succéder à son père, il s'en sentait bien incapable, mais c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et ça, c'est suffisant. Peut-être que tu manques de sagesse. Tu aimes le Seigneur, c'est déjà une bonne chose parce que le reste, il va te le donner. Amen. Tu aimes le Seigneur, tu aimes l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Que si tu aimes le Seigneur, ça soit le Seigneur que tu aimes et pas toi. Tu aimes le Seigneur, tu aimes l'œuvre de Dieu, non pas pour en tirer un intérêt personnel, non pas pour obtenir de l'argent, obtenir un nom, obtenir de la gloire. Aime le Seigneur sincèrement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur aimait Samuel, le Seigneur voyait la détresse de Samuel, l'inquiétude de Samuel, et il va lui apparaître, et va lui dire, à la fin du verset 5, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon va lui dire, ce que j'ai besoin, c'est de la sagesse. Tu as besoin de sagesse. Il va reconnaître sa condition. Verset 7, il va dire, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et cette demande de Salomon, elle a plu au Seigneur. La sagesse aussi, c'est savoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce qui paraît bien, là, au premier abord, tu ne sais pas où ça va t'amener. Peut-être que ça ne sera pas si bien par la suite. Amen. Et ce qui te paraît mal, comme ça, au premier abord, ça peut évoluer d'une autre manière. Il y avait un témoignage comme ça d'un homme d'affaires qui réussissait parfaitement dans toutes ses affaires. Et cet homme, qu'est-ce qu'il faisait ? À chaque fois qu'on lui proposait un marché, une affaire, il ne répondait pas, il n'étudiait même pas les choses humainement parlant, il les étudiait, oui, jusqu'à un certain point, mais il prenait ses dossiers, il allait dans sa chambre et là il priait, il dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette chose-là » Et il ne sortait de la prière que quand il avait une réponse du ciel, amen, une réponse du ciel. Et il marchait avec ce que le Seigneur lui disait et il réussissait toujours. Et les gens étaient étonnés, ils lui disaient « Mais comment ça se fait ? Comment ça se fait ?» Des fois, il refusait d'investir dans des choses qui paraissaient extrêmement intéressantes. Il disait « Non, le Seigneur m'a dit non. » Et la chose extrêmement intéressante au premier abord se révélait catastrophique un peu plus tard, parce que nous ne sommes pas en contrôle de l'économie, nous ne sommes pas en contrôle même des récoltes, du marché. Qui peut dire « je suis en contrôle de ces choses » Personne. Quand tu investis, quand tu fais du business et que tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, tu le fais toujours au hasard. Ça peut très bien finir comme ça peut très mal finir. Et parfois, il s'engageait dans des affaires qui paraissaient complètement nulles, qui paraissaient ne rien pouvoir donner de valable par la suite, mais il disait « si, je me suis engagé là parce que le Seigneur m'a dit de le faire ». Et on voyait que quelques temps après, cette affaire dont personne ne voulait, qu'il avait prise, commençait à prospérer et à grandir. Amen. Discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui va marcher, de ce qui ne va pas marcher. Et Salomon savait qu'il en avait désespérément besoin. Un petit peu plus loin, vous pourrez lire à la maison, il y a l'histoire de ces deux femmes qui vivaient ensemble. Elles ont mis au monde le même jour un enfant. Il y en a un qui étouffe son enfant, qui s'endort dessus. L'enfant meurt. L'enfant qui reste, à qui est-il? Et je vous assure qu'il a fallu une sagesse surnaturelle de Dieu pour pouvoir régler ce problème. Amen. Parce qu'il aurait pu dire, on donne l'enfant à personne, on va le placer dans l'orphelinat. Ça aurait été injuste parce que la vraie mère aurait été lésée de son enfant. Il aurait pu dire, on fait pile ou face, on tire au sort l'enfant. Ça aurait été aussi injuste parce que, eh bien, l'enfant aurait pu être donné à quelqu'un, à l'autre, pas à sa vraie mère. Il lui a fallu une sagesse surnaturelle de Dieu pour découvrir qui était vraiment la mère de cet enfant. Amen. Donc, la sagesse, c'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin dans notre vie de tous les jours et encore plus quand nous sommes appelés à servir le Seigneur, parce que nous le sommes. Si vous êtes ici ce matin, c'est, si vous êtes sorti de votre lit aussitôt, c'était parce que vous aviez cette interpellation dans votre cœur. Je veux passer du temps avec Dieu, je veux venir à la prière matinale, j'ai ce désir de servir le Seigneur. Parce que au fond de vous, peut-être même inconsciemment, vous avez entendu l'appel de Dieu. Je me rappelle quand j'étais à l'école biblique, une parole qui m'a vraiment aidée et que je veux vous dire encore ce matin. Parce que moi j'étais à l'école biblique, je savais que le Seigneur m'avait appelée, mais je me sentais incapable. Et puis finalement, au bout du compte, j'étais même plus si sûre que cela. Et il y a un professeur qui disait, vous êtes tous appelés, vous êtes tous appelés, vous êtes tous appelés, mais ceux qui rentreront dans l'appel, c'est ceux qui vont y répondre. Amen. Donc vous allez avoir besoin d'une double dose de sagesse pour rentrer dans l'appel que Dieu a pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, passez une très bonne journée.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.